à la Semaine Bourgogne de m'avoir invité. En fait, cette conférence doit beaucoup à Jean-Pierre Pervez, qui est en voyage en Iran actuellement, mais pas pour le compte du CEA. Et donc, Jean-Pierre Pervez, que j'ai relayé à la Svensson, et j'ai apprécié la qualité de votre Assemblée générale et de vos comptes.
C'est aussi bien que dans les
On se
feuilles.
livre à ce même genre d'exercice avec les mêmes règles et les mêmes. Et je dirais qu'effectivement, pour vous parler un tout petit peu de la Svensson, nous, notre activité principale, c'est finalement qui a été installée historiquement par Jacques Fosse, qui a été le président aussi de la Svensson il y a longtemps. Et puis, ça a été c'est d'aller dans les lycées, à la demande des professeurs de physique, pour faire des TP de physique portant sur la radioactivité, sur l'énergie aussi, et des ateliers. Et donc, on intervient, je dirais, dans une bonne quinzaine d'établissements où on passe souvent une semaine, parce qu'on fait toutes les classes de première, par exemple, avec par demi-classe, avec donc deux fois 2 heures de TP par classe. Et finalement, on arrive à avoir à peu près 4 à 5 000 élèves chaque année, en contact très direct et avec quelquefois, quand on fait les ateliers énergie, c'est par petits groupes de 5-6 et avec beaucoup d'interactions. Et puis c'est très intéressant de voir aussi le contact avec les profs de physique, parce que ce n'est pas tous des pros nucléaires, hein, loin de là, mais en gros, quand ils nous ont accueillis une fois, ils nous redemandent et ils convainquent en général leurs autres collègues. Et du coup, on arrive à diffuser de l'information et avec beaucoup de débats naturellement. Alors après ça, effectivement, nous avons une activité de conférences et de conférenciers. Là, Jean-Pierre Pervez, avec qui je travaille régulièrement, m'a dit: « Je suis en déplacement, est-ce que tu peux prendre au pied levé cette conférence-là » Du coup, j'ai retravaillé tout le sujet. C'est un sujet qui, Fukushima, qui m'a intéressé depuis l'origine. D'abord parce que j'étais à l'époque dans le conseil de direction du CEA au moment où l'accident s'est produit et que naturellement ça a été un sujet d'actualité permanent, pendant notamment les premières heures, les premières semaines dans lesquelles tout le monde se. Et on avait un flux d'informations qui arrivait, le centre de crise qui était réuni. Et puis donc je dirais cette connaissance du sujet, j'ai essayé de l'approfondir et surtout ce qui m'a déclenché chez moi l'idée de dire il faut absolument qu'on communique plus souvent et plus largement là-dessus, c'est quand j'ai entendu en juillet dernier, ça devait être le 28 juillet, journal de 19h France Inter que j'écoutais d'une oreille distraite. À un moment, il parle de Fukushima et je me dis tiens, je vais écouter un peu plus fort. C'était une brève sur le petit robot qui était allé voir pour une première vue du corium à l'époque. Donc, j'écoute ça un peu plus attentivement. Et le journaliste du journal de 19h sur France Inter, qui est quand même pas n'importe quelle radio, conclut en disant: oui, parce que le 11 mars 2011, jusque-là tout est bon, trois cœurs de réacteurs ont fondu, provoquant un énorme tsunami. Donc là, je me suis dit, là, effectivement, j'avais déjà, comme vous, beaucoup réagi sur le fait que les 16 500 victimes étaient souvent associées à la centrale et pas au tsunami, enfin, ou de manière assez confuse, et que je comprends que dans l'esprit des gens, ça puisse être confus. Mais là, effectivement, là, on dépasse. J'ai immédiatement écrit au médiateur de Radio France, qui m'a répondu pratiquement dans l'heure: je suis aussi atterré que vous, mais je pense que ça n'a malheureusement pas changé grand-chose à la situation. Donc le besoin de communiquer là-dessus, il est grand, et je pense qu'on peut tous, effectivement, avec cette base d'informations, essayer de ramener les choses à leur vraie grandeur. C'est une catastrophe nucléaire, effectivement. Ça n'est pas une catastrophe humaine aujourd'hui, même si on verra, il y a beaucoup d'aspects, effectivement, compliqués là-dedans. Alors ça, on démarre avec une vue de Fukushima aujourd'hui. Je rallume mon petit bazar pour qu'il fonctionne. Écoute, ça doit marcher avec ça. Normalement, je verrai, je te demanderai de l'aide si ça coince. Vous voyez Fukushima aujourd'hui avec, en fait, les 4 réacteurs, on y reviendra, concernés, ils sont devant. Ça, c'est les 2 autres qui étaient à l'arrêt. Ce qu'on peut repérer sur cette photo, c'est tout cet ensemble-là qui n'existe pas au moment de l'accident. Ça, c'est tout le stockage des eaux contaminées qui sont stockées sur place. En fait, on verra que ça n'est plus que du tritium qu'il y a là-dedans. Et puis là, c'est tous des bâtiments nouveaux qui ont été construits pour les besoins du chantier actuel qui se déroule maintenant depuis 7 ans avec une extrême, avec beaucoup d'énergie et beaucoup de monde sur place. Ce qu'on peut comprendre aussi, c'est le paysage de ce coin du Japon avec une côte qui est assez rectiligne à l'endroit de Fukushima, avec une première terrasse basse sur laquelle sont implantés ces réacteurs et très vite des collines derrière, hein, donc qui montent très très vite. Alors, voilà le site avant l'accident. Et on voit effectivement, vous voyez que derrière la centrale, il n'y a rien. Il n'y a pas encore tous ces bâtiments nouveaux. Donc, lors du tsunami, on reviendra sur cet accident géophysique. En fait, les 3 réacteurs ici étaient en marche. Le numéro 4 était à l'arrêt déchargé. Et le 5 et les 6 étaient également à l'arrêt depuis déjà longtemps, en cours de, je dirais, de remise à niveau, mais sans calendrier très précis. Et donc, voyez, sur ce petit zoom ici, on voit en violet ici la zone qui a été envahie par la vague du tsunami et qui a mis tout ça sous plusieurs mètres d'eau, comme on le verra, pas dans un temps rapide, mais qui a été suffisant pour faire beaucoup de dégâts. Alors, on va démarrer par le tsunami, parce que, et le séisme et le tsunami, c'était ma première spécialité au CEA. J'ai dirigé le département qui s'occupe de géophysique au CEA, la direction des applications militaires. Et donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? On est sur ce Japon ici avec une plaque pacifique qui, par la grande mécanique de la tectonique des plaques, glisse sous la plaque Eurasie qui est ici et glisse avec une vitesse de déplacement du fond de la plaque qui est de l'ordre de 10 cm par an et qui vient s'enfoncer sur cette partie de plaque continentale qui est un peu plus légère que le plancher océanique. En fait, le lieu de l'épicentre du séisme est situé ici. Fukushima serait juste sous mon point ici, là. Et en fait, voici effectivement le lieu de l'origine du séisme. Ici, cette première carte présente l'intensité ressentie. Vous voyez qu'on monte jusqu'au niveau 7 de l'intensité. C'est un séisme de magnitude 9, mais effectivement, il n'est pas directement sous le continent. Et vous voyez les intensités ressenties qui, dans le secteur de Fukushima qui est ici, atteignent 6+, ce qui est extrêmement élevé. Qu'est-ce qui se passe dans ce séisme? On le verra sur une petite animation si elle veut bien marcher. Mais c'est que vous avez la plaque qui glisse sous la plaque océanique qui glisse sous cette plaque continentale. Et ça coince et à un moment donné, ça débloque. Et à ce moment-là, tout se réajuste. Mais il ne faut pas imaginer que ça se passe juste en un point local. En fait, la zone concernée, ici, vous voyez, elle fait pas loin de 400 ou 500 km de long. Et c'est 400 ou 500 km de long dans lequel ce qui est représenté ici, c'est le déplacement de la plaque du dessous par rapport à celle du dessus. C'est-à-dire que sur pratiquement 400 km sur un plan d'une zone de subduction, donc sur 400 km de long, vous avez les deux lèvres des deux compartiments qui glissent de 10, 15, 20 mètres l'une par rapport à l'autre. Hein, donc, et cette déchirure se propage elle-même sur ces 400 km de long. Elle ne se passe pas partout en même temps. Elle démarre au point de l'épicentre, je dirais, et après elle se propage très rapidement. Sur cette petite carte ici, vous voyez, sur cette petite figure, vous voyez l'intensité, le déplacement entre les deux bords de la faille, de cette zone de subduction. On atteint plus de 10 mètres de déplacement dans beaucoup de secteurs. Et vous avez ici des isochrones qui vous donnent la vitesse à laquelle cette déchirure se propage. Donc l'événement se produit pendant plusieurs minutes, en fait, puisque ça craque et ça se déchire sur 400 km de long. Alors, je ne sais pas si mes petites animations derrière vont marcher, parce que c'est sur la clé. Alors, il faut que je tape peut-être là-dessus, on va voir, mais sinon on les regardera à part. Vous avez ici ce qui est la physique d'un tsunami. Est-ce que ça veut bien démarrer? Oui, voilà. Vous voyez ici cette plaque qui descend. Le pendage est très exagéré, là, il fait plutôt 10-15 degrés. La zone qui se déforme et un moment qui lâche. Et au moment où ça, c'est le mécanisme. Le tremblement de terre, lui, il fait son office avec ces ondes qui se déplacent dans la lithosphère. Par contre, la partie qu'on voit ici, c'est le fait que le mouvement du fond de l'océan, qui remonte brutalement d'un mètre ou deux, sachant que le déplacement horizontal dans le plan de la faille peut atteindre, lui, une bonne dizaine de mètres, ce mouvement du fond de l'océan, lui, il remonte et il affecte toute la colonne d'eau. Et donc, toute la colonne d'eau est brutalement remontée de 1 ou 2 mètres de haut. Et à ce moment-là, il se propage une onde qui est très particulière parce que c'est une onde qui a en fait une longueur d'onde qui est égale à toute la zone qui a bougé au fond, donc une longueur d'onde qui peut faire 400 km par... c'est pas un truc sphérique, ponctuel, mais qui peut faire 400 km par 40 ou quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, la vitesse de déplacement de cette onde, elle est proportionnelle à la racine carrée de GH, H étant la profondeur. Et donc, quand on est en plein océan, le front de l'onde va se déplacer à 800 km/h, c'est-à-dire que ça va traverser tout le Pacifique en 12, 15, 18 heures depuis le Japon jusqu'au Chili. Par contre, quand la bathymétrie se réduit, on va voir que la vitesse de propagation de cette onde diminue très fortement. C'est ce que je devrais arriver à faire si je mets en route cette petite animation. Voilà. Est-ce qu'elle démarre ? Oui, je pense. C'est-à-dire que là, vous voyez, on est à 800 km et plus on approche de la Terre, plus le fond remonte. Et à ce moment-là, on a une onde dont le front ralentit. Et finalement, c'est tout bête, ça ralentit et ça pousse derrière, si je puis dire. Et cette onde qui était invisible au milieu de l'océan, parce que c'était simplement une montée d'eau de 1 mètre, et finalement, elle devient extrêmement violente quand le fond remonte. C'est pour ça que ça s'appelle tsunami. Alors, je ne connais pas beaucoup de mots japonais, mais je sais que l'un des deux, tsu doit vouloir dire port et nami, onde, parce que pour les Japonais, historiquement, qui ont connu ce phénomène et dont ils ne comprenaient pas l'origine, en fait, ce qui était caractéristique, c'est que le pêcheur qui était en mer en face du port revenait au port le soir et trouvait le port complètement dévasté, alors que lui, en mer, n'avait absolument rien vu, rien senti. Parce qu'en mer, c'est simplement votre bateau qui monte de 1 mètre, mais qui ne redescend pas, par rapport à une vague classique, sauf que où il redescend 20 minutes plus tard quand l'onde est passée. Mais du coup, effectivement, on a une onde extrêmement destructrice, puisque en front, arrivant sur la côte, elle peut avoir ralenti énormément, mais tout en restant à des vitesses quand même costauds, hein, 80 km/h, c'est plus vite que la course à pied, je dirais qu'il peut faire effectivement 10 mètres, voire plus de hauteur, par cette propagation-là, qui est une onde dans laquelle toute la colonne d'eau est affectée par cette montée brutale du fond. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Fukushima à ce moment-là? Ça, on a vu, on va passer à la suivante. Donc, effectivement, le tsunami dévastateur, vous l'avez tous vu à l'époque. C'est quelques photos ici qui montrent l'ampleur du désastre, hein, énorme. Et puis, oui, des photos absolument spectaculaires et terrifiantes, comme cette arrivée de vagues qui passent un mur, donc en emportant tout sur son passage. Et à Fukushima, dont on a vu la photo, une vision globale tout à l'heure, en fait, 45 minutes après le séisme avait été extrêmement violent. Donc, pendant les 45 premières minutes, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, tout a bien fonctionné sur le plan des barres de contrôle, de la mise à l'arrêt des réacteurs, du démarrage des groupes électrogènes. Donc, le directeur raconte, je vous montrerai cet ouvrage, moi j'étais dans mon bureau, je voulais me mettre sous le bureau, qui est la consigne habituelle, mais ça bougeait tellement que je ne pouvais pas me mettre sous le bureau, parce que je n'arrivais pas à bouger sans tomber. Et puis après, je suis sorti de mon bureau, tous les plafonds, les faux plafonds étaient tombés. On est allé au poste de crise qui, lui, était prévu pour tenir et avait tenu. Et à ce moment-là, on a commencé à voir, bon, les diesels marchent, tout va bien, etc. Il y a eu l'alerte tsunami lancée par le gouvernement qu'ils ont reçue, mais il n'y avait pas d'indication de hauteur et ils avaient un mur qui était censé les protéger. Et donc, simplement, vous voyez, à 15h42, dans cette photo, on voit, il faut regarder la voiture pour avoir l'échelle, et on voit ces grands réservoirs à côté, on voit l'eau arriver. 15h43, les réservoirs dépassent à peine. 15h57, l'eau est repartie parce que vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de place derrière, donc il n'y a pas eu énormément d'entrée d'eau, c'est revenu derrière. Et à 15h44, vous voyez, le niveau est en train de baisser. Donc on a une invasion d'eau très très forte au niveau des installations, donc qui va générer tous les soucis qu'il va y avoir dans les minutes qui suivent. Il faut savoir que vous voyez l'épicentre ici, c'est-à-dire le point de démarrage de cette grande déchirure qui, en fait, s'est propagée tout le long sur 400 km. Il y a d'autres sites de centrales nucléaires, notamment Onagawa, ici. Onagawa, dont voilà une photo, ça ressemble beaucoup, comme vous le voyez, au site de Fukushima. La ville d'Onagawa a été complètement détruite, à part quelques très grands bâtiments costauds au départ. Il y a eu 8% de la population tuée par le tsunami, mais la centrale n'a pas eu de soucis. Enfin, elle s'est arrêtée du fait du séisme, mais les défenses vis-à-vis du tsunami avaient été améliorées depuis quelques années en fonction de prévisions un peu plus pessimistes qu'elles l'avaient été données au départ. Donc, de même, Fukushima et Daini, qui est un tout petit peu au sud de Fukushima Daiichi, qui est celle qui nous concerne, a tenu le coup sans dégâts des eaux et sans que les systèmes habituels de groupes électrogènes, etc., ne soient mis en panne par l'arrivée de la vague. Puisque, qu'est-ce qui s'est passé sur le site? Pour ça, il y a deux documents, si vous voulez vous intéresser aux détails techniques de tout ce qui s'est passé sur les quatre réacteurs pendant les premiers jours, hein, et c'est très complexe en fait, parce que c'était de la gestion de crise vraiment à minute par minute. Il y a une animation vidéo de l'IRSN sur le site de l'IRSN qui restitue bien tout ça, et on comprend effectivement très bien les différentes étapes de l'affaire. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus poignant et beaucoup plus humain, c'est le témoignage du directeur qui vient de sortir il y a un mois, hein, c'est-à-dire le directeur de la centrale a été auditionné longuement par des commissions d'enquête du Premier ministre et du Parlement. Il en est sorti un document de 400 pages en japonais que j'ai pas lu tout de suite. Et par contre, récemment, il y a deux gars qui sont des sociologues de l'École des mines de Paris qui ont sorti ce livre où ils ont extrait beaucoup. Enfin, le cœur, c'est le témoignage du directeur de centrale et enrobé par un discours de sociologie de la crise qui n'est pas le plus intéressant de l'affaire, je dirais, entre nous, mais qui, par contre, le témoignage est absolument poignant parce qu'on a là quelqu'un qui se trouve brutalement dans une situation complètement imprévue et qui réagit. Heureusement, il a une très bonne connaissance technique de son installation. Il voit les priorités, mais il est vraiment privé de tout. Il faut imaginer la situation qui est décrite rapidement après ici, c'est-à-dire séisme exceptionnel, bon, arrêt automatique des réacteurs, plus de lignes à haute tension qui tiennent, donc plus d'arrivée d'électrique sur le site. Heureusement, les 13 diesels de secours démarrent automatiquement. La situation est maîtrisée. Les routes d'accès au site sont également complètement inaccessibles du fait du tremblement de terre et de tout ce qui est tombé dessus, et du raz-de-marée. Là, en fait, 45 minutes plus tard, l'arrivée du tsunami, une vague de 15 mètres au lieu de 6, les diesels, tableaux électriques sont noyés, sauf un qui continue à marcher sur les réacteurs 5 et 6, mais qui ne sont pas la principale priorité puisque ils sont, eux, à l'arrêt depuis longtemps. Et simplement, il faut imaginer que tous les tableaux électriques, c'est ce que le directeur raconte très bien dans son témoignage, il dit tous les tableaux électriques sont complètement pleins de flotte. Donc je ne peux rien raccorder à quoi que ce soit. Tout est chamboulé sur le site. Il y a plus de courant alternatif sur un 1.5, plus de courant continu sur un 2 et 4, et plus d'éclairage, plus d'instruments de mesure, le noir dans les salles de commande. Et à partir de moment-là, il va falloir bricoler dans une situation qui est complètement imprévue dans son scénario de gestion de crise. Ça va aller jusqu'à aller rechercher les batteries de voitures des salariés présents sur place pour les connecter ensemble, pour essayer de reconstituer des alimentations en tension continue, pour alimenter des vannes, etc. Il y a eu, en fait, le détail technique, c'est que finalement, tout était prévu avec des systèmes de vannes, soit pneumatiques, soit hydrauliques, soit électriques, quelques vannes manuelles, mais effectivement, dans la plupart des cas, il n'avait plus moyen de faire fonctionner tout ça. Donc les sécurités prévues avaient beaucoup de mal à fonctionner. Alors, pour analyser ça, bien sûr, il faut faire un peu de technique sur les réacteurs. On démarre par finalement des réacteurs que dans cette pièce, tout le monde connaît bien sûrement, qui sont les nôtres, hein. Donc pour faire la comparaison entre les deux technologies REB et REP, hein, puisque là il s'agissait à Fukushima de réacteurs à eau bouillante. Et donc là encore, si certains d'entre vous veulent descendre dans la technique, il y a, je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage, j'en fais la promotion puisqu'il vient d'un des membres de la Svenesson, Dominique Grenèche, qui est un ancien de Framatone, a publié récemment Histoire et technique des réacteurs nucléaires et de leur combustible. Et là il y a dedans un gros chapitre consacré à la comparaison REB-REP, hein, donc, qui descend là dans le détail technique. Mais finalement, sur nos PWR, comme vous le savez, il y a eu des grosses améliorations faites post-TMI, hein, qui ont été, et en partie aussi post-Tchernobyl, mais surtout post-TMI, qui ont été le fait qu'on a mis des recombineurs hydrogène, donc pour éviter les explosions d'hydrogène dans l'enceinte, et on a mis des filtres à sable pour être capable de dégonfler l'enceinte sans rejet, ou avec, je dirais, un filtrage du césium qui est de style de type 98% d'efficacité, quoi. Donc des rejets extrêmement faibles de ce côté-là. Alors, techniquement, nos PWR, ils ont forcément une enceinte très grande parce qu'ils intègrent tout, y compris les générateurs de vapeur. On verra que sur les REB, on est sur une géométrie beaucoup très, très différente en pratique, puisque voilà une petite coupe de REB dans laquelle, finalement, avec l'absence, la confusion, si je puis dire, entre le primaire et le secondaire, et donc la vapeur produite directement dans la cuve et envoyé directement sur les turbo-alternateurs. On a quelque chose qui simplifie au sens où il y a un circuit de moins. D'un autre côté, effectivement, il faut une cuve. Alors, on fonctionne à peu près dans les mêmes conditions de température, mais pas dans les mêmes conditions de pression. On est à 70 bars au lieu de 150, hein, mais avec une cuve qui est beaucoup plus grande, en fait, hein, parce que pour des problèmes d'écoulement biphasique dans le cœur du réacteur, il faut maintenir des gaines autour des combustibles mêmes pour favoriser l'écoulement et qu'il n'y ait pas trop d'écoulement transverse, ce qui fait que la densité de puissance dans un cœur de REB est deux fois moins forte que dans un REP. Et on a donc une cuve plus importante, avec un peu moins de pression, avec une hauteur grande parce qu'il faut gérer des dispositifs de séchage de la vapeur en haut, et du coup une introduction des barres de contrôle par le bas, hein, avec donc une petite question de sûreté qui est le fait qu'on ne peut pas utiliser la gravité directement pour les faire descendre. Là, ça n'a pas été le problème, ça s'est bien passé. Une enceinte qui, ne contenant pas les GV, peut être beaucoup plus petite, mais qui, d'un autre côté, monte du coup beaucoup plus vite en pression. Les questions d'hydrogène avaient été ignorées par les Japonais en disant « Nous, ce n'est pas le problème parce qu'on inerte notre enceinte à l'azote. » Donc, une fuite d'hydrogène dedans ne peut pas provoquer d'explosion. Sauf que l'explosion s'est produite après la fuite de l'enceinte, hein, dans le bâtiment principal. Donc on a cette question de volume qui est importante. Il y a des dispositifs passifs finalement prévus pour la régulation des montées brutales en température dans un REB qui sont, vous voyez ce tor ici, c'est un tor qui fait tout le tour de base de la cuve, qui est connecté à la cuve et qui est en permanence rempli à moitié d'eau. Et donc dans le cas où on a trop de pression de vapeur ou qu'on a une vaporisation finalement trop importante, à ce moment-là, on envoie de la vapeur, ça se fait, je dirais, de manière directe, sans intervention humaine. Le tor se voit injecter de la vapeur qui barbote dans l'eau et qui fait tomber la pression. Donc ça, ces systèmes-là ont marché. Par contre, il y a des systèmes externes de refroidissement en cas d'accident, qui prévoit là encore des dispositifs de barbotage ou de recirculation d'eau, mais qui, faute d'électricité pour ouvrir les vannes, se sont trouvés dans la plupart des cas n'arrivaient pas à fonctionner. Alors, une deuxième coupe un peu plus technique qui montre, effectivement, on reconnaît le tor, on reconnaît la cuve de réacteur qui finalement est très très haute du fait de sa structure avec les barres en dessous, et avec un choix qui est de dire ben, je vais décharger mes combustibles par le haut classiquement, mais qui du coup se trouve très haut, et une piscine de combustible qui est complètement perchée en haut du bâtiment, hein, et qui effectivement va donner lieu à beaucoup de soucis, non pas pendant l'accident, mais après. Donc, en fait, on a des barrières de confinement classiques, les gaines du combustible, la cuve du réacteur, l'enceinte, qui est en fait une enceinte métallique appuyée contre une enceinte de béton, qui est calibrée à 5 bars, mais tout ça a lâché du fait de l'absence de refroidissement. Et donc, effectivement, on s'est mis à avoir, on le verra, des fuites un peu partout. Et À ce stade, je dirais qu'effectivement, le tort a fonctionné, le reste, non. On verra, on a vu peut-être sur les... Si je reviens à la photo de départ, parce que je ne sais pas si on les revoit après, je reviens rapidement à ce qu'on voyait ici. Les dispositifs, je reviens aux toutes premières photos, je l'ai peut-être après, mais hop, on va revenir là. Est-ce qu'on le voit là-dessus? Si on voit, on voit des grandes constructions là, qui sont des cheminées de dégazage, hein, qui sont prévues en cas d'accident pour pouvoir relâcher la pression, pour éventer, mais qui, par exemple, étaient protégées pour tout éventage intempestif par des membranes devant éclater à 5 bars. Et naturellement, dans la configuration de l'accident, il n'y avait pas assez de pression. Il y avait de la fuite un peu partout, mais pas assez de pression pour faire éclater la membrane et pour que ça sorte plutôt par le haut que par le bas. Hein, donc, on voit qu'effectivement, il faut être... je dirais, les scénarios d'accident, c'est, ça, forcément, ça ne se passe jamais exactement comme prévu. Alors, une fois qu'on a vu ce schéma technique et qu'on voit à peu près comment ça marche, il faut voir aussi que tous ces 4 réacteurs sont connectés entre eux par un ensemble de galeries, de galeries services techniques, y compris aussi en ayant 2 par 2 réacteurs la même cheminée d'éventage. Hein. Et on verra que ça a eu un effet de communication entre 2 réacteurs, avec finalement des explosions qui se sont produites au-delà du réacteur qui lui-même avait des fuites. Alors aussi, ce qu'il faut noter, c'est que dans un cœur de REB, du coup, comme il faut mettre des canaux de circulation autour des crayons de combustible, tout ça est en zircaloy, c'est-à-dire que globalement, le terme source en zircaloy est donc en capacité à haute température à dissocier de l'eau et à fabriquer de l'hydrogène en grande quantité, ben, il est plus important que dans un REP. Et donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, ils ont fait des efforts désespérés pour maintenir un refroidissement par les moyens du bord. Donc, ils se sont tournés. Il n'y avait plus d'électricité, comme je vous dis. Ils ont essayé de ramener les batteries de voitures pour ouvrir des vannes. Ils ont utilisé les camions de pompiers. Mais un camion de pompiers allait chercher de l'eau. Ils ont pris d'abord l'eau du tsunami. Ils avaient quelques réserves d'eau douce, mais qui ont vite été consommées. Ils avaient le tsunami qui avait mis de l'eau dans des endroits imprévus. Ils sont allés pomper dedans, puisqu'ils sont très vite passés à l'eau de mer, hein, sans attendre l'avis parce qu'ils n'avaient plus rien sous la main. Et le directeur avait une préoccupation, c'est quel est le niveau d'eau? Je veux savoir quel est le niveau d'eau dans mes cuves. Hein. Il doit être normalement 4 mètres au-dessus du toit des crayons, hein, en gros. Et donc, quel est le niveau d'eau? J'en ai pas d'indication, ou j'ai des capteurs qui marchotent, mais je suis pas sûr qu'ils me donnent la bonne valeur. Et finalement, je sais qu'il faut absolument refroidir, puisque, comme vous le savez, un réacteur qui s'arrête, ben, on arrête effectivement la fission, mais on n'arrête pas la décroissance radioactive des produits radioactifs, notamment à vie courte, qui sont là et qui dégagent une chaleur intense. Vous avez dans ce petit tableau, finalement, quelle est la puissance thermique résiduelle une fois qu'on a arrêté la réaction de fission. Alors, à Tchernobyl, l'accident se produit dans la seconde qui suit une énorme surpuissance brutale d'un facteur 100 de la puissance nominale du réacteur. Donc là, effectivement, on peut même pas dire quelle était la puissance au moment où la centrale a explosé. Mais après ça, on peut voir que 1 minute après la descente des barres, on a encore, pour un 1000 MW électrique, hein, on a encore 150 000 kW à refroidir. Hein, alors, heureusement, c'est beaucoup de produits à vie courte, donc ça descend vite. Mais quand le tsunami arrive, il reste encore une puissance résiduelle de 40 000 kW. Hein, et quand finalement ça fuit, comme on va le voir, il en reste 17 000. Aujourd'hui, on est à plus de 5 ans. Quelques dizaines de radiateurs électriques, je dirais, donc la puissance résiduelle est faible. Mais au départ, elle est extrêmement forte. Donc la préoccupation du directeur, c'est il faut refroidir ça absolument par tous les moyens. Camion de pompiers, j'injecte de l'eau par là où je peux, mais il y a de la pression. Donc l'eau que je veux injecter, bah, il faudrait d'abord que j'arrive à faire tomber la pression. J'y arrive pas parce que je peux pas ouvrir les vannes. Donc le récit est assez poignant de ces premières heures. Et donc, faute de refroidissement, les cœurs des réacteurs 1, 3 et 2 fondent progressivement. On arrive malgré tout à faire des dégonflages, mais pas de recombineur. Donc finalement, sans que ça... Ils sont surpris par le fait qu'il y a une première explosion dans le réacteur numéro 1, parce que l'hydrogène est arrivé cette fois dans le toit du bâtiment qui, lui, n'est pas du tout un toit étanche et qui, donc, mais a retenu l'hydrogène. On est dans un mélange explosif qui, à ce moment-là, explose. Et puis, à ce moment-là, effectivement, bah, émission sans filtre de tous les produits volatiles et donc une contamination. Et je dirais que cette première étape, on peut dire qu'elle se conclut 8 mois après. C'est un petit peu symbolique, cette date, mais c'est le moment où la direction de la centrale a pu dire « J'ai rétabli des circuits de refroidissement corrects qui sont « J'ai de l'électricité, j'ai des capteurs, j'ai des circuits de refroidissement et je sais que maintenant, l'eau qui coule, que j'envoie un peu partout parce que je ne sais pas ce qu'il y a vraiment à l'intérieur, ne se met plus en phase vapeur quand elle rencontre les parties chaudes. Hein, donc je suis à froid et j'ai plus de risque d'avoir un gros incident. Vous voyez, 80 000 personnes évacuées en urgence, 60 000 visées à l'abri, on y reviendra. Alors, voilà les réacteurs 1, 2, 3 et 4 après l'accident. On voit ici leur cheminée de dégazage commune deux par deux. Et donc, dans le réacteur 1, c'est le premier qui a donné des signes de faiblesse, c'est-à-dire fusion partielle du cœur, fuite de gaz, donc oxydation des gaz zircaloy, production d'hydrogène, fuite de gaz, explosion du toit du réacteur. Après ça, c'est le réacteur numéro 3 qui lui a une fuite de gaz également, donc avec tous les produits volatiles qu'il peut y avoir dans cette toute phase première de refroidissement du réacteur. Donc explosion là aussi dans la superstructure. Le réacteur numéro 4 qui lui est vide à ce moment-là. Finalement, du gaz et de l'hydrogène se propagent par les galeries et provoquent explosion et incendie dans la partie supérieure du réacteur numéro 4, qui lui était pourtant à l'arrêt sans problème. Et puis pour finir, effectivement, ou juste avant, le réacteur numéro 2, vous voyez, on est le 15 mars, on est 3 jours après, 3 jours de bagarre intense pour essayer de retrouver un peu d'électricité, et tout ça avec des niveaux d'irradiation qui augmentaient régulièrement, donc avec le problème de la sécurité des bonhommes qui allaient intervenir, de leur dosimétrie, plus des secousses qui continuaient, donc une situation effectivement extrêmement difficile, et le récit du directeur est très instructif de ce côté-là. Alors, là-dessus, si on attaque sur, finalement, qu'est-ce qui s'est passé dans l'environnement autour, on voit que l'histoire est complexe parce qu'il y a eu à la fois des explosions et des dépressurisations qui ont emmené à... Ici, vous avez 12, 13, 14, 15, ça, c'est les jours du mois de mars. Hein, donc, on démarre le séisme et le tsunami est arrivé en heure locale vers 15h le 11. Et puis vers 15h le 12, ça y est, les fuites commencent de plus en plus importantes, je dirais, soit par des manœuvres volontaires de dépressurisation, soit par associées aux explosions. Ça, c'est un inventaire qui a été fait par l'AIEA, par l'IRSN également, pour essayer de chiffrer finalement ce qui avait été envoyé dans l'environnement. Alors, celui de Tchernobyl, donc c'est un inventaire AIEA. Et là, vous avez la comparaison avec Fukushima. Il faut savoir que pour Fukushima, l'inventaire, pour l'instant, on ne sait le faire uniquement que par en remontant à partir de ce qu'on retrouve dans l'environnement vers le réacteur. On n'a pas de scénario direct qui permette de dire « je modélise les 3 fusions et voilà ce que ça rejette hein. ». C'est plutôt par déduction de ce qu'il y a dans le terrain. Alors, ce qu'on voit, c'est que, finalement, si je démarre par la dernière ligne, qui est un petit peu le plus important, à mon avis, c'est que à Fukushima, on a expédié dans l'atmosphère que des produits volatiles, le césium étant le plus embêtant d'entre eux en termes d'émissions gamma, de durée de vie, etc. Il y a également du strontium-90, mais il n'y a pas, je dirais, d'émetteur alpha ou d'actinide qui a été envoyé dans l'environnement. Tout ça est resté, finalement, dans la cuve et dans le fond de la cuve. Contrairement à Tchernobyl, où en faisant exploser le cœur, on a envoyé tout, y compris le combustible, sur la pelouse, si je puis dire, et même assez loin de la pelouse autour. En termes de césium, on est à un rejet d'un tiers, à peu près, par rapport à Tchernobyl. Vous voyez que pour le reste, notamment sur les produits à vie courte, comme les iodes, on est plutôt au dixième. Et sur ces rejets, il se trouve que, par chance, entre guillemets, mais vu la configuration du site, c'est assez normal. Statistiquement, il y en a quand même une bonne moitié, voire un peu plus, qui est partie côté océan. Donc, c'est-à-dire qu'on ne l'a plus dans l'environnement terrestre aujourd'hui. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur ces rejets. Et maintenant, À partir du 11 mars, donc 11 mars, les cellules de crise se mettent en place un peu partout, mais pour l'ensemble des catastrophes, et le tsunami étant la principale préoccupation au départ. Mais à partir du 12, au moment où les premières fuites se produisent, il y a eu des décisions d'évacuation. Ces évacuations, elles se sont faites assez rapidement, d'abord 2 km, puis 3 km, mais ça c'était d'heure en heure que le périmètre d'évacuation augmentait. Et puis, petit à petit, dans les jours qui suivent, on a évacué finalement toute cette zone-là en évacuation d'urgence. Et puis, il y a des zones qui se situaient sous le vent, et on l'avait compris, on avait suffisamment de mesures, où on a, les Japonais ont géré ce qu'ils ont appelé des zones d'évacuation délibérées, c'est-à-dire, vous faites ce que vous voulez, mais je vous accueille si vous évacuez. Il vaudrait, mais c'est vous qui choisissez. Et puis après, c'est devenu des zones d'évacuation impératives un peu plus tard, quand l'ensemble des mesures ont été faites. Je dirais que ces questions de critères d'évacuation et surtout de critères de retour sont celles qui se posent encore aujourd'hui. En fait, il était très certainement, on le verra d'ailleurs dans la philosophie française post-Fukushima, il était très, très raisonnable d'évacuer par précaution. En fait, les niveaux d'exposition auraient été relativement faibles si les gens étaient restés, mais auraient été quand même significatifs. Et donc, après, c'est toute la question des niveaux de retour qui sont difficiles en termes notamment de communication. Alors, les urgences, comme sur le site, ça a été d'abord de réfrigérer, de rétablir l'électricité et eau, de gérer la dosimétrie de l'ensemble des gars qui continuaient à intervenir, dans une situation où ils ne savaient pas trop ce qui s'était passé chez eux, s'ils habitaient pas trop loin de la mer, au bord de l'eau, une situation humaine qu'on a du mal à imaginer. Et le système qui a été assez rapidement mis en place, c'est, vous voyez cette structure-là, réacteur ayant explosé dans sa partie haute, vous avez ici, ça c'est une pompe à béton, les pompes qui sont utilisées pour couler une dalle de béton dans un immeuble au 8e étage, on utilise ces pompes très puissantes avec rallonge, et bien là elles étaient utilisées pour expédier de l'eau de mer directement au-dessus du réacteur, pompée directement en mer à côté pour maintenir du refroidissement. Après ça, il fallait maîtriser la dosimétrie, déblayer les contaminés, ça on va voir, gérer les eaux, on va le regarder un peu plus en détail. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que la resuspension sur site est très faible, c'est-à-dire qu'on peut se balader sur le site sans protection particulière sur presque l'ensemble du site lui-même de la centrale. Et donc, grâce au travail très important qui a été fait. Alors, on le verra un peu plus en détail, ce travail. Le chantier très important qui a tout de suite suivi, c'est celui des piscines, parce qu'elles représentaient un stock de césium. En fait, il y avait là-dedans l'équivalent de 20 cœurs stockés dans des conditions qui étaient devenues apocalyptiques, avec nécessitant un refroidissement, ou au moins en tout cas la présence d'eau, alors que d'autres séismes pouvaient se produire. On ne savait pas trop dans quel état étaient les piscines. Elles sont restées en eau, mais il fallait traiter rapidement, notamment la piscine de la tranche 4, qui contenait à elle seule 1330 assemblages, donc il fallait évacuer d'urgence, et donc ils ont géré les priorités, et on verra que en peu de temps, à l'échelle de ce qu'on sait gérer comme projet, je dirais, ils ont réussi à faire ça. Alors, vous voyez ici le réacteur 4 complètement éventré sur le toit, et une piscine dans laquelle des tas de choses sont tombées par-dessus, puisqu'elle est sur le sommet ici, et donc on voit à travers l'eau des assemblages ici verticaux, des débris dessus, y compris le pont roulant qui est normalement là pour manœuvrer ces assemblages. Et donc tout ça étant dans une situation extrêmement précaire, ils ont rapidement effectivement, à l'échelle d'un chantier pareil, ils ont construit toute une structure qui ne repose pas sur le bâtiment accidenté, mais qui vient en porte-à-faux dominer le bâtiment, on le devine ici, et vous voyez qu'en novembre 2013, le système était en place avec pont roulant, etc., et extraction et capacité à sortir le combustible de ces piscines. Ce qui leur a simplifié la vie de ce côté-là, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de contamination sur ce bâtiment, puisque c'était essentiellement des fuites, certes avec de l'hydrogène et des produits de fission volatile qui étaient arrivés jusque-là, mais dans le bâtiment lui-même, il n'y avait pas un corium en dessous de tout ça, puisque lui, il était vide à ce moment-là. Donc le niveau d'activité était relativement faible pour intervenir, moyennant quoi ils ont pu faire cette intervention. Vous voyez là aussi, on voit bien la construction de ce bâtiment. Et là, le faire ça en 2 ans, from scratch, en négociant avec une autorité de sûreté aussi pour dire voilà ce que je vais faire et ça va plutôt améliorer la situation que la compliquer. Et donc ils sont arrivés finalement à évacuer tous les châteaux, tous les combustibles très rapidement. Donc puisqu'en 2014 cette affaire-là était terminée, donc le réacteur 4 était cette fois complètement en sûreté, vide de tout combustible. Alors réacteur 3, autre situation plus difficile parce que là, il a un corium au fond de la cuve, si je puis dire, et même un peu au-delà. Une radioactivité très forte parce que là, il a eu des grosses fuites de cuve avec le combustible dedans. Et donc là, ils ont décidé de dégager progressivement tout ce qui encombrait sur le dessus. Vous voyez là, on est au-dessus des piscines, là aussi, hein. Donc là, vous voyez qu'en février 2014, on commence à voir la logique ici du bouchon qui est en fait des plaques de béton au-dessus du toit de cuve, c'est-à-dire les plaques qu'on enlève quand on va sortir le combustible en phase de maintenance. Et donc on a une vue de dessus de cette affaire-là et on voit à côté la piscine avec des objets flottants dedans, enfin flottants ou posés dedans. Et on voit ici qu'en 2015, ils arrivent à enlever le pont roulant qui était tombé là aussi dans la piscine. Et donc là, ils sont en train de monter sur ce bâtiment-là une structure qui va s'appuyer là encore indépendamment du bâtiment du réacteur initial et qu'on va monter ici. C'est-à-dire qu'à partir de quelque chose qui ressemble à ça, ils sont arrivés à faire un hall. Donc monter à l'extérieur et amener jusqu'au-dessus pour faire la manutention des combustibles. On voit aujourd'hui, donc ça c'était il y a 2 mois, on voit, vous voyez la taille des bonhommes ici, hein, on voit ce hall qui vient se poser sur le toit de la centrale et ici l'ensemble du pont de manutention nouveau qui est installé à l'intérieur. Alors là c'est plus contraignant parce que il y a beaucoup plus de radioactivité sur cette surface de travail. Donc ça va être essentiellement téléopéré, mais il faut quand même bien y passer un peu de temps pour installer tout ça. Donc ce sont les champions de la robotique, mais là, effectivement, ils ont fait beaucoup de nettoyage aussi pour essayer de faire tomber le niveau d'irradiation dans ce bâtiment, sur ce terrain-là. Donc là, l'espoir, c'est qu'ils arrivent assez vite maintenant à mettre en route tout ça et évacuer ce bâtiment. Alors sur le réacteur numéro 1, qui est le premier à avoir explosé, là, il y a eu finalement, il y a eu un premier épisode dans lequel c'était peut-être l'image de ce qui était en train de se faire à Tchernobyl qui les a guidés, mais ils ont commencé par se dire il faut mettre tout ça à l'abri. Et ils ont fabriqué très vite, je dirais, une espèce de sarcophage fait de diverses plaques qu'ils ont posées sur le réacteur numéro 1, parce que leur problème à l'époque était de se dire est-ce qu'on ne va pas avoir beaucoup de resuspensions, etc. Pour finir, ils ont déduit après, en parallèle qu'ils développaient ce qu'on a vu sur les autres réacteurs, ils ont fini par se dire ce truc-là va nous embêter en fait, on l'enlève et on va plutôt maîtriser la contamination et les remises en suspension par de l'arrosage, par des produits fixateurs pour essayer d'avoir le moindre suspension possible. Mais en fait, il vaut mieux qu'on intervienne sur le dessus. Et aujourd'hui, de manière téléopérée, vous avez un énorme aspirateur que vous voyez ici qui récupère. On est là sur le toit du réacteur et ils essayent donc, ils ramassent le maximum de débris pour faire baisser, pour rendre la situation visible d'abord, et puis faire baisser le niveau d'irradiation sur ce toit. Il se trouve qu'effectivement, c'est là que le fait qu'il n'y ait pas d'émetteur alpha dehors ou pas de manière très costaud fait qu'effectivement, on a un émetteur gamma costaud, le césium-137. Le 134 a commencé déjà à bien baisser puisqu'il a 2 ans de période. Et donc, on se guide avec finalement une détection assez simple et on voit bien les morceaux qu'il faut enlever, quoi, on dirait. Et donc ça, c'est Et donc, ils espèrent effectivement être sortis, puisque le but, là encore, c'est de mettre, de sortir les combustibles des piscines, puisqu'elles représentent encore un risque important. Sur l'unité numéro 2, qui, elle, est la seule celle qui a eu le moins de dégâts, puisqu'il y a eu une explosion latérale, mais où il y a un corium quand même au fond, le bâtiment, lui, il est tel qu'il est après l'explosion, il est encore correct. Alors maintenant, le deuxième gros, ou le quatrième gros chantier dans l'ordre, c'est qu'en fait, la partie inférieure de ces réacteurs, c'était un cuvelage en béton dans le sous-sol de ce site, et sous-sol qui est gorgé d'eau, et dont l'étanchéité du cuvelage a été complètement ravagée par le séisme probablement, et puis par les explosions, par le corium peut-être, mais surtout, je dirais, par le fait que ce cuvelage en béton qui est dans cette partie-là, avec, vous voyez, le tor qui est ici, tout ça a beaucoup de gaines de circulation entre l'océan pour les pompages d'eau, les autres réacteurs pour des questions de gaines techniques. Donc tout ça aujourd'hui prend beaucoup l'eau, alors que la géologie locale, c'est que vous avez donc une colline, vous avez une nappe d'eau qui passait tranquillement autour de ces cuvelages et qui allait vers l'océan, une deuxième nappe d'eau ici, donc qui est une nappe d'eau enfermée entre deux horizons étanches et qui débouche dans l'océan. Et en fait, sans qu'il y ait beaucoup de moyens de mesurer ce qui se passe exactement là-dedans, mais dans ces réacteurs, on injecte en permanence de l'eau et le minimum a été de type 5 mètres cubeurs envoyés pour refroidir, mais vraiment, j'arrose par-dessus. Hein. Et puis, les eaux naturelles circulent là-dedans et baignent toute la partie basse avec des quantités de radioéléments là-dedans qui sont importantes. Et donc, tout ça, la préoccupation, c'était comment éviter que tout ça file vers l'océan. Donc, il y a eu une politique d'isolement, c'est-à-dire que le sarcophage, il est plutôt en dessous qu'au-dessus, hein, dans cette installation par rapport à Tchernobyl. Et donc, le premier point, ça a été de dire il faut qu'on limite les arrivées d'eau naturelle de la nappe. Donc, on va faire des pompages en amont, on fait des forages et on rabat la nappe en évacuant cette eau, puisque elle n'est pas du tout contaminée. Et puis, on va faire un mur imperméable le long de l'océan. On voit peu là, mais là, c'est juste le démarrage de l'océan. On va faire un mur imperméable qui va aller s'appuyer sur cet horizon étanche. Et on va pomper l'eau devant, on va la rejeter après contrôle s'il n'y a rien dedans. Et puis, autour, on va faire une barrière étanche tout autour de cette zone-là pour essayer de l'étancher et pour limiter finalement les échanges avec le milieu naturel en dessous qui se chargeait très vite, fortement, en radioéléments. Alors, vous avez ici le mur étanche le long de la mer, c'est du battage de pieux, et puis avec derrière tout un système de centrales de traitement des eaux et de contrôle pour vérifier que ce qu'on pompe peut être rejeté ou pas. Et puis vous avez, donc ça on les voit un peu mieux, vous avez la vue technique de ces constructions, c'est à 800 mètres de mur étanche le long de l'océan, pour éviter la communication avec l'océan. Et puis après, le deuxième projet, ça a été de dire on va entourer les quatre centrales par un coffrage complet, cette fois en sol gelé. Donc on fore, on installe des dispositifs de réfrigération et on gèle le sol. Et on va faire une étanchéité tout autour jusqu'à la zone d'argile en dessous, pour que finalement ça soit une piscine fermée sans échange avec l'intérieur et l'extérieur. Alors ça marche, c'est maintenant en situation de fonctionner, c'est-à-dire la fermeture complète du périmètre, elle est récente, hein. Donc cette fois le périmètre est complètement fermé. Alors, ce qu'ils observent pour l'instant, c'est que certes, il y a moins d'eau souterraine. Ils veulent maintenir le niveau d'eau. Ils ne veulent pas assécher complètement parce qu'ils pensent que le niveau d'eau joue un rôle aujourd'hui dans la limitation de la diffusion de la radioactivité et puis dans le refroidissement, parce qu'on ne sait pas exactement la situation dans ces fonds de cuve, où est l'eau naturelle, est-ce qu'elle contribue au refroidissement résiduel ou pas. La consigne de l'autorité de sûreté, c'est de baisser le niveau, mais pas de le réduire complètement. Et alors simplement, effectivement, aujourd'hui, ils sont arrivés, puisque pour maintenir ce niveau relativement bas, ils pompent en permanence une eau qui se révèle très contaminée. Ils la traitent et ils en utilisent une partie pour refroidir encore, puisqu'ils continuent d'arroser les trois réacteurs. Alors avec ce mur gelé, ils sont arrivés à baisser les débits, hein, c'est-à-dire qu'ils sont passés d'une extraction qui était de 400 mètres cubes jour à aujourd'hui moins de 200, peut-être même moins de 100, sauf quand il y a un typhon qui passe et qui arrose complètement, parce que là, c'est des milliers de litres, enfin, au mètre carré qui tombent, et donc à ce moment-là, la piscine se remplit quand même. Donc, ils sont en train de se bagarrer avec ça, avec une conséquence qui est celle-là, c'est que ils ont, dès le départ, ils ont eu comme politique de stocker les eaux qu'ils extrayaient après contrôle dès lors qu'il y avait quelque chose dedans. Et assez rapidement, il y a eu des premiers systèmes. Vous savez qu'Areva, à l'époque, a contribué au tout premier système de traitement de ces eaux pour essayer de les de limiter les volumes. Mais aujourd'hui, ils en sont à une situation dans laquelle ils ont 1 million de mètres cubes stockés, hein, donc qui leur demande énormément de travail parce qu'il a fallu changer les réservoirs qui fuyaient parce que les premiers étaient, ils avaient pris ce qu'ils avaient sous la main sur tout le territoire, je dirais, et qui aujourd'hui, globalement, ne contiennent plus que du tritium parce qu'ils sont tous partis. Toutes ces eaux ont pu être traitées pour l'évacuation du césium et du strontium par des systèmes d'échange de résine et de pièges divers, mais aujourd'hui, ils ont un stock énorme. Finalement, là-dedans, il doit y avoir à peu près le tritium au maximum qu'il peut y avoir dans trois cœurs, c'est-à-dire pas tellement. Je veux dire qu'il y a, c'est pas en termes de grammes de tritium, j'ai pas d'inventaire, mais c'est forcément pas très très élevé parce que il y a pas plus de tritium que ce qu'il peut y avoir dans un cœur de réacteur en fonctionnement, c'est-à-dire pas énormément. Et donc, du coup, il se retrouve avec ces bidons qu'il faut gérer. Quand il y a une fuite, ça fait tout de suite un scandale. Ils ont négocié une autorisation de rejet pour les eaux qui pompent très basse, c'est-à-dire que dès que ça dépasse 1500 becquerels litre, ils ne rejettent pas en eau de mer. Donc 1500 becquerels litre, c'est vite fait. Hein, en tritium, on est potable jusqu'à 10 000. Hein, donc effectivement, c'est... Alors ça, c'est une gestion complexe. Et surtout, je dirais... très, très, très soumise à l'observation des médias et chaque pépin de fuite donne lieu effectivement à pas mal d'agitation. Il faudra bien qu'à un moment donné, je veux dire, si on retraitait ce combustible à lag, ça filerait à la fin du processus dans la Manche, hein, avec les 100 grammes d'autorisation de la hague chaque année, qui n'en utilisent qu'un quart. Mais donc là, ils sont stockés sur place et c'est une gestion complexe. Alors aujourd'hui, quand on regarde dans l'eau qu'ils rejettent ou dans l'eau au voisinage, juste vraiment sampling point, South Discharge Channel, là on est juste en aval des zones de prise d'eau et de rejet, vous voyez qu'on est à 8,2 becquerels litre de tritium, donc c'est l'océan, quoi. Enfin un peu plus, hein, il y a un facteur 10 ou 100 par rapport à la pleine mer, mais on est dans des zones extrêmement raisonnables et on ne voit plus rien d'autre. Alors, voilà pour ce qui est de cette gestion des eaux, qui est surtout un problème à la fois de refroidissement, même si aujourd'hui ils pourraient arrêter d'arroser, a priori, vu les puissances résiduelles, mais ça contribue à éviter la remise en suspension, j'imagine. C'est pour ça qu'ils continuent à arroser. Alors, maintenant, et au gros chantier, c'est aller à la recherche du corium. Je regarde si je vais... Oh là, je suis en train d'en plafonner les délais. Je veux pas... Je vais aller vite sur la recherche du corium. On voit ici, c'est finalement, parce que ce sera le dernier gros chantier, ça sera de récupérer tout ça. Et donc, on voit ici, si vous voulez, cette photo reconstituée, c'est en dessous des barres de contrôle, on est sous la cuve ici, vous aviez, si je puis dire, une zone de travail, donc avec un platelage acier en dessous. Et là, on voit l'énorme trou qui a provoqué dedans le corium qui est sorti de la cuve et qui a percé tout ça. Hein. Donc, effectivement, ils ont mis au point des systèmes d'inspection. Ça, c'est récent, c'est l'année 2017-2018. Ils sont pour ça extrêmement performants, y compris dans des milieux et des ambiances de débit de dose qui sont pas très, tellement friendly, si je puis dire, pour les équipements. Hein. Donc, et vous voyez qu'on est dans des... Là, c'est tout le schéma pour aller observer avec des différents passages dans lesquels il faut trouver. On est dans des 40 degrés heure, enfin des choses que la microélectronique n'aime pas trop. Mais moyennant quoi, vous voyez les opérateurs, il faut gérer la dosimétrie aussi des opérateurs. Donc c'est l'objet de cette planche-là. Moyennant quoi, ils sont allés voir quand même, ils ont pu commencer à voir des images sous le réacteur 2, vous voyez des débris en fond de cuve. Ils ont pu faire une preuve. Ici, on retrouve la vision des barres de contrôle en dessous, qui ont reçu toute la bouillasse qui pouvait tomber depuis le haut dans les injections. Et on voit ici des éléments fondus. Aujourd'hui, on n'a pas encore s'en sont pas encore à un descriptif complet de ce qui se passe, mais ils commencent à y voir un tout petit peu plus clair grâce à leur dispositif d'inspection. On voit ici tous les schémas. Les températures sont toujours faibles. Les schémas d'exposition, bien entendu, et puis essayer de resituer ce qu'on observe par rapport à la géométrie initiale du réacteur. Alors, comment vont-ils se débrouiller du corium ? Pour l'instant, ils sont pas encore fixés, parce que leur campagne d'observation sert notamment à ça. Notamment, il y a deux grands choix technologiques. Est-ce qu'ils arrivent à recréer de l'étanchéité dans toute cette partie cuvelage ancien? À ce moment-là, ils opéreraient sous eau en remplissant tout ça pour limiter les débits d'irradiation et en travaillant sous eau. Ou est-ce qu'il faudra travailler au sec parce qu'ils n'arriveront pas à reprendre ces étanchéités? Ça, c'est des questions qui ne sont pas encore résolues et pour lesquelles, même s'ils vont vite, ils disent que c'est une affaire de dizaines d'années. Alors maintenant, les impacts, les impacts population et travailleurs. C'est les débimétries. Ça, c'est les débimétries enregistrées par des points de mesure préexistants, si je puis dire, au moment de l'accident, qui ne sont pas forcément pile-poil sur la centrale. Hein, mais ce qu'on voit, c'est qu'on est monté effectivement à 20 microsievert-heure sur ces points de mesure, un peu plus important si on était près de la centrale, mais que fin 2011, on est à moins de 10 millisieverts par an. C'est d'ailleurs... Là, il y a... nos collègues de la CLI, avec Jacques Fauss d'ailleurs aussi là-dedans, de La Hague et de Flamanville, sont allés en visite à Fukushima l'année dernière. Et ils avaient un débimètre qu'ils ont laissé marcher pendant tout le voyage. Hein. Et vous voyez, là, ils sont au Japon. Ils sont sur les communes les plus touchées par les retombées. Là, ils sont à la centrale elle-même. Là, ils sont à 40 mètres du réacteur 1, c'est-à-dire en train de se promener là où il y avait la vague à l'époque, et ils sont à des débits de dose où on est, vous voyez, à quelques 20, 30, 40 microsieverts heure. Hein, et ici, c'est le retour en avion. C'est l'avion Tokyo-Paris. Et ça, c'est le niveau à Cherbourg qui est... où la radioactivité naturelle est sensiblement plus élevée que dans ce secteur japonais. Donc aujourd'hui, on est sur des niveaux de radioactivité, débit de dose faible, y compris sur le site. Voilà ce qui était une évaluation. Alors il y a eu beaucoup d'évaluations de fait qui ne sont pas toutes complètement cohérentes, parce que le facteur 5 à 10, on le trouve assez facilement. Mais en gros, c'est là que ça s'articule avec les questions d'évacuation et de retour. Voilà une carte, vous voyez un rayon de 20 km, 30 km, 50 km. Voilà une évaluation qui a été publiée par l'IRSN à partir de cartes faites par le ministère japonais, par cartographie gamma aéroportée, en disant finalement, vous voyez ce rayon de 20 km pour donner l'échelle, hein, la centrale est par ici, et vous voyez que si vous étiez resté chez vous tout le temps, si vous êtes dans la tache rouge, vous auriez peut-être bien pris 100 millisieverts dans l'année. 100 millisieverts, c'est une exposition effectivement, ça commence à se mesurer bien. C'est quand même, effectivement, une bonne dizaine de fois autour des bruits de fond naturels de quelques millisieverts. Bon, alors, très vite, ça baisse assez vite. Vous voyez que la zone verte ici, c'est 5 millisieverts dans l'année. Si vous étiez resté là toute l'année, c'est une zone qui a été évacuée, comme on va le voir. Hein. Alors, ça, c'est le même genre d'évaluation, mais finalement, l'UNSCAR dit donne des niveaux d'évaluation beaucoup plus bas, puisque là, vous voyez, les petits cercles orange qui évoluent, c'est où est-ce qu'on a plus de 1 millisievert par an si on réside, hein. Et ça, c'était au début, juste après l'accident. Vous voyez que la zone a plus de 1 millisievert, on va la voir réapparaître. Elle ressemble un peu à la zone d'évacuation. Aujourd'hui, on est 5 ans après, la zone a plus de 1 millisievert, elle est du fait des dépôts. Alors, les évacuations ont été faites au départ autour de la centrale dès le deuxième jour, 2 km, puis 3 km, puis 10 km, puis 20. Et là, aujourd'hui, c'était la zone finalement totale évacuée qui est ici. Avec une cartographie, on est en août 2013, il y a 1150 km² d'évacués, avec une population initiale de quand même 81 000 personnes. Tout ce qui est vert et orange, c'est des zones dans lesquelles elles ont été contrôlées et il a été constaté que, en fait, même dans des scénarios pessimistes, en se réinstallant, on ne pouvait pas prendre plus de 20 millisieverts par an. Alors, vous voyez qu'on avait 1 millisievert d'un côté, là on est à 20, c'est le genre de différence qu'on peut trouver. Ici, on est dans une approche systématiquement majorante, c'est-à-dire si vous n'avez pas de chance, sachant que la radioactivité n'est pas du tout homogène en termes de dépôt. Hein. Donc là, après des efforts de décontamination de tout ce qu'ils pouvaient ramasser, ils disent là, on est forcément à moins de 20 millisieverts par an. Donc depuis le 1er avril 2017, on dit aux gens, si dans toutes ces zones-là qui ne sont plus vertes ou oranges, vous pouvez revenir. Et d'ailleurs, la meilleure manière de vous dire que vous pouvez revenir, c'est que je vous donne plus de sous pour que vous soyez hébergés ailleurs. Donc ça ne veut pas dire que les gens reviennent, mais les aides à l'expatriation, si je puis dire, tombent. Après, il reste une zone qui fait 370 km² et qui, elle, aujourd'hui, on ne peut pas démontrer que ça serait moins de 20 millisieverts. Donc pour l'instant, ils vont continuer à nettoyer et à gratter, mais pour l'instant, c'est une zone où on ne peut pas revenir. Alors, tout ça, tous ces grattages et ces nettoyages, ça donne une question de gestion de déchets solides. On a passé alors je ne parle pas des déchets sur la centrale elle-même avec des choses plus actives, mais là, on gratte des sols à quelques centaines de kilobécquerels par mètre carré de césium. On fabrique des tonnes et des tonnes de différents, de terres marquées par du césium. Et donc là, les projets pour les stocker, au départ, il y avait l'idée de faire un grand stockage style entre Morvilliers et Soulaines, je dirais, comme style de contrainte, puisque essentiellement c'est du césium, en gros. Mais finalement, c'est difficile de l'implanter. Donc finalement, le gouvernement japonais a dit chaque préfecture se débrouille avec ce qu'elle a sur les pieds. Donc ça fait beaucoup de petits sites ou moyens sites de stockage. Et il y a un seuil libératoire quand même, qui est, quand c'est inférieur à 8000 becquerels par kilo, vous pouvez mettre ça dans une décharge classique, quoi. Il n'y a pas de problème. Ça doit quand même aider bien en pratique. Alors, j'évoque rapidement le fait qu'effectivement, il y a une partie du panache qui est tombée dans l'eau de mer. De ce point de vue-là, il reste un marquage césium au droit devant la centrale qui pose quelques soucis aux pêcheurs, ou plus ou moins. C'est-à-dire que les poissons vivants dans les sédiments qui se couchent sur le sol sont marqués césium, pas à des niveaux inquiétants du point de vue de la contamination, du moins ça n'est plus le cas, mais effectivement du point de vue de la communication sur les produits de la pêche, c'est pas complètement réglé. Alors, maintenant passons, et on finira avec ça, la dose publique. Je veux pas les doses publiques et finalement le suivi épidémiologique. C'est là qu'on va avoir sur le long terme des résultats qui vont être passionnants parce que en fait on a les Japonais ont bien fait les choses. Ils suivent d'abord 421 000 personnes dont ils ont reconstitué heure par heure ce qu'ils ont fait dans les heures qui ont suivi les relâchés. Ils ont pu reconstituer pour chacun d'entre eux la dose reçue. Et donc ça, c'est les noms des différentes communes. C'est celle de Soso qui est nord-nord-ouest de Fukushima qui a pris les doses les plus importantes. Vous voyez que on a effectivement, là, vous voyez les 421 000 personnes suivies, supérieur à 5 millisieverts, on a un total de 930 sur 421 000. Hein, donc on est. Et la dose maximum reçue a été de 25 millisieverts. Donc on est sur 900 personnes qui ont pris plus de 5 millisieverts du fait de relâchage, avec personne à plus de 25. Donc. Deuxième grosse opération, ça a été de dire qu'il faut qu'on s'occupe des thyroïdes de tous les enfants. Et ils ont scanné tous les enfants qui étaient présents dans la préfecture de Fukushima au moment de l'accident, âgés de moins de 18 ans. Et donc, ils ont fait une investigation, là, détaillée. Et ils sont arrivés à mesurer, donc, à faire un dépistage systématique. Ils ont trouvé un taux de cancer de la thyroïde de 11 pour 100 000, qui a donné lieu à des débats parce que, forcément, avec une méthode de détection systématique, on en trouve plus que quand c'est simplement quand la maladie se déclare. Il y a un facteur 10, effectivement. Mais ils ont pu montrer que dans d'autres préfectures non touchées par les retombées, quand on appliquait la même méthode, c'est-à-dire détection systématique, on trouvait les mêmes résultats, c'est-à-dire grosso modo autour de 10 ou 15 cancers de la thyroïde pour 100 000. Alors maintenant, néanmoins, ça fait aujourd'hui, il y a 159 résidents de la préfecture de Fukushima qui avaient moins de 18 ans lors de l'accident, qui ont développé un cancer de la thyroïde. Ça correspond à ce taux ici. Naturellement, tout le débat, c'est comment ne pas attribuer ce cancer à Fukushima. Et il est clair que quand on l'a, ça doit être forcément la réponse. Du point de vue des travailleurs, là encore, il y a eu des règles mises en place juste au moment de l'accident, avec des doses qui pouvaient monter un peu plus. Ils sont revenus rapidement aux règles internationales, c'est qui sont un peu moins sévères que les règles françaises, puisque c'est 100 millisieverts sur 5 ans et non pas 20 millisieverts par an, mais ça ne revient pas tout à fait à la même chose. Mais statistiquement, on sait que voilà les résultats. On a un total de 78 000 personnes qui ont été, un total de 94 000 personnes, pardon, qui ont été suivies depuis 2011 jusqu'à maintenant. Il y en a 2900 quand même qui ont pris plus de 50 millisieverts, en gros, hein, sur toute la période, mais beaucoup concentrés sur la première année. Et il y a eu quelques doses supérieures à 200, dont une à 680. Alors, aujourd'hui, si je prends 10 mois récents, il n'y a plus beaucoup de dosimétrie. Il y en a un petit peu, mais pas beaucoup. C'est pour ceux qui gèrent ça au quotidien à Valduc, vous voyez que des 20-50... La dose 20 à 50 millisieverts est atteinte dans l'année, quoi, par 65 personnes sur les 13 000 suivies. Mais dans un contexte effectivement assez particulier. Alors que dit l'OMS là-dessus ? Elle dit sur la population, on a 900 personnes qui ont pris plus de 5 millisieverts jusqu'à 25. En fait, par rapport à des cancers qui apparaissent à 29% chez les femmes et 40% chez les hommes au Japon, on peut avoir 0,1 à 0,2% d'augmentation. Mais tout ça, 0,1 à 0,2, ça fait un cancer sur 900 personnes. Hein, donc, est-ce qu'il y aura, sur ces 900 personnes, il y aura grosso modo 300 cancers. Est-ce qu'il y en aura 301 ? C'est à peu près les niveaux de ce qu'on peut... Thyroïde des enfants, même chose, on l'a vu. Travailleurs, là encore... probablement indécelable, mais bien entendu, il faut rajouter l'impact du stress psychologique. C'est d'ailleurs la réalité, la seule réalité des victimes de Fukushima. C'est la ligne jaune ici, c'est-à-dire que rayonnement, pas d'impact décelable. Par contre, traumatisme psychologique lié à l'évacuation. On a comptabilisé 1800 décès liés, suicides, accidents cardiaques, alcoolisme, enfin toutes les dérives sociales auxquelles on peut assister pour des populations déplacées. Hein. Et donc, bien entendu, il reste 370 km² de territoire interdit. Mais si on compare au tsunami lui-même, le tsunami, c'est 560 km où on ne peut pas réhabiter parce qu'il a été décidé qu'ils étaient beaucoup trop dangereux, quoi qu'on fasse. 16 500 morts. Là encore, 1400 décès chez les personnes déplacées. Donc, même cause, mêmes effets. Des dégâts très importants. Et surtout, à ce stade, quand on compare ces deux plans, je crois que le plus important, c'est de se dire que, finalement, toute cette partie Fukushima... Si on devait rejouer le film à l'envers, ça serait évitable, hein, parce qu'il s'en est fallu de pas grand-chose, finalement, techniquement, pour qu'on puisse éviter... Quelques précautions supplémentaires de conception et d'application sur le site auraient évité la situation dans laquelle ils se sont retrouvés. C'est-à-dire que le retour d'expérience, c'est que Fukushima, même avec un réacteur au bord de la mer soumis à un gros tsunami, des précautions sur les alimentations fuel, des diesels, des précautions sur les alimentations électriques, sur les meilleures protections, tout ça, qui ne coûtent pas bien cher, permettraient de ne pas avoir eu ça. Par contre, ça, en revanche, ça, on saura, et même les Japonais qui sont très entraînés à ça, on ne saura jamais faire mieux. C'est-à-dire que quand il y aura, alors il n'y en a pas souvent des magnitudes 9, hein, là ils étaient habitués aux magnitudes 7-5, il y a un débat pour dire est-ce que c'était prévisible. Oui, c'était prévisible. En France, on aurait pris une ou deux marges supplémentaires qu'en matière de hauteur du mur, etc. Les études de sûreté, c'était celles faites par General Electric dans les années 74 et livrées telles quelles clés en main à TEPCO, qui n'est pas un concepteur de centrale ni de sûreté, et qui les a pris tels quels, alors que l'expérience de General Electric en matière de tsunami est peut-être pas forcément la plus grande. Et donc aujourd'hui, voilà le dégât du tsunami qui est quand même une affaire, cette fois japonaise, mais contre lequel, malgré leur bon entraînement, ils arrivent à rien faire. Alors, Côté électricité, bien entendu, on voit ici la part du nucléaire s'écrouler en 2011 et la part du gaz et du charbon augmenter parce qu'il fallait bien faire de l'électricité. Malgré tout, leur plan, c'est de faire redémarrer des réacteurs. Hein. C'est-à-dire que leur Energy Plan 2030, vous voyez, c'est de redonner une part importante nucléaire là où en 2013, il n'en reste presque pas. Ils développent du renouvelable avec surtout du solaire. Finalement, ils autorisent des réacteurs à refonctionner. Et en 2018, les premiers BWR autorisés devraient redémarrer. Hein, donc, ils n'ont pas renoncé, eux, ils n'ont pas décrété de sortie du nucléaire. Ils ont des problèmes pour convaincre les populations. Mais ils redémarrent en tout cas tous ceux qui ne sont pas exposés sur cette partie-là, qui est la plus sensible au tsunami. Mais malgré tout, vous voyez les choses qui se passent, effectivement. Celui-là, voilà, un mur cette fois de 22 mètres, long de 1,6 km pour mettre à l'abri cette centrale qui devrait, plus des améliorations, un petit peu façon donc post-Fukushima en France. Hein, et c'est ce que je conclurai. Effectivement, en France, on a tiré, comme en Europe, les leçons de Fukushima. On a confirmé que la conception globale de la troisième génération était bonne. On a engagé des travaux importants sur la génération actuelle et avec une approche déterministe qui est de dire tous les réacteurs d'un site ont un accident majeur ensemble sans qu'on sache le scénario qui y conduirait. L'objectif, aucune évacuation durable de la population n'est acceptable. On peut avoir une évacuation temporaire par précaution, mais pas plus. Et on met des marges supplémentaires qu'on impose en termes de tenue au séisme, en termes d'inondation, etc., sans avoir besoin de justifier qu'elles sont nécessaires. Hein, donc c'est une approche effectivement qui pousse le bouchon nettement plus loin qu'avant. Et puis on met des moyens humains de gestion de crise. On a parlé du noyau dur, donc le bunker, ça il est en train de se construire un peu partout, hein, avec des réserves d'eau spécifiques, avec des nouvelles procédures. La Farn, vous en avez parlé tout à l'heure, donc effectivement avec celle de Bugey que vous avez visitée. Donc ça, c'est en place aujourd'hui. Et effectivement, le tout, c'est d'éviter ces situations où pour des débits de doses finalement assez modestes, hein, de peut-être 5-10 millisieverts par an, on déplace 80 000 personnes. Là, on voyait un monsieur de nos âges en train de se balader dans ses petites constructions provisoires où il vit depuis 5 ou 6 ans. Des grattages de sol, des stockages de déchets. Enfin, donc, c'est tout ça qui est effectivement que les améliorations peuvent nous permettre d'écarter complètement aujourd'hui dans les scénarios auxquels on peut avoir à faire face. Voilà ce que je voulais vous dire en un peu plus longtemps que prévu. Et j'en suis désolé.
Cet exposé qui était vraiment très, très précis. Bien sûr, on peut prendre le temps des questions.
Bien
sûr, c'est tellement intéressant. Pour lancer la discussion, je poserai une question toute simple. Est-ce que le modèle à eau pressurisée aurait été plus résistant que le modèle à eau bouillante tel que donc on l'a vu?
Ah, c'est pas une question intéressante. Je dirais que aujourd'hui, un modèle à eau pressurisée sans électricité, sans dispositif passif, je ne me suis jamais posé la question comme ça, mais effectivement, si on se met dans la même circonstance, c'est-à-dire j'ai perdu toute alimentation électrique, j'ai plus de salle de commande, je ne sais plus mesurer la pression, je ne sais plus. La seule chose qui aurait été plus efficace, si on se met dans ce même scénario catastrophe, c'est que, les fuites, on peut imaginer donc qu'on n'aurait pas géré effectivement le système, mais tout système arrêté, barre de contrôle descendue, etc., ben, qu'est-ce qui se passe? On se met à fuir par le pressuriseur en haut, hein, et on suit dans une enceinte où on peut monter en pression quand même. Elle est grande, beaucoup plus grande que la petite enceinte, donc la montée en pression est plus faible. Et on a des recombineurs d'hydrogène qui, eux, sont passifs, hein, donc ne demandent rien de particulier. Donc, normalement, on évite l'explosion hydrogène. Et si on rejette, à travers un filtre à sable. Alors, ça vaudrait le coup de vérifier, mais je pense que ça a été largement fait par nos collègues de l'IRSN et surtout par les exploitants eux-mêmes. C'est que ce qui est arrivé à Fukushima, c'est-à-dire des vannes qui, pour des raisons de sécurité, étaient toujours en position fermée et nécessitaient un apport d'énergie pour s'ouvrir, par exemple, alors qu'en situation accidentelle, il faut pouvoir les ouvrir. C'est ce genre de choses sur lesquelles ils sont tombés, hein, sur le fait qu'un accident, quelques années avant, qui avait été un incendie dans une centrale suite à un séisme, mais incendie dans une partie turbine, turbo-alternateur, finalement avait généré, non pas de dégâts radioactifs, mais beaucoup de difficultés. Et du coup, ils avaient un peu modifié leur organigramme de commande des vannes, sans électricité, sans moyen de secours. Donc je pense qu'effectivement, la conception, surtout à cause des recombineurs et du filtre à sable, aurait été plus robuste. On aurait peut-être eu du corium au fond de la cuve ou au fond de l'affaire. Hein. Ça, c'est parce que sans rien pour faire circuler l'eau. Là, il y a des systèmes pas bêtes de systèmes, enfin, c'est même bien, bien foutu. Il y a des systèmes qui, normalement, en cas de surcroît de pression et de vapeur, c'est des turbopompes qui marchent avec la vapeur elle-même, donc qui en font recirculer. Sauf que tout ça est commandé par des mises en route avec des vannes pour ouvrir le circuit. Et donc là, ils étaient coincés.
Mais les recombinateurs d'hydrogène. C'est pas lié aux deux conceptions.
On peut les mettre sur l'un comme sur l'autre. De manière plus. Alors, dans un scénario d'accident pareil, je vais pas pousser la comparaison plus loin pour l'instant. Par contre, sur le plan de la conception générale des réacteurs, de leur sûreté, je dirais que. Aujourd'hui, c'est quand même les REP qui ont pris le dessus du marché. Il reste de l'eau bouillante. On en fabrique encore quelques-uns de ci, de là. Mais effectivement, avec des dispositifs de sûreté et d'auto-sûreté, je dirais, qui ont beaucoup évolué dans le temps sur les REP. Donc, sur les REB, pardon. Donc, les techniques de recirculation d'eau en cas d'accident, il n'y a pas de modèle qui se ressemble, je dirais. Quand on regarde un peu la littérature, ça... Et donc, alors, il y en a certainement qui ont réglé un certain nombre de problèmes de sûreté initiaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que un des grands défauts de la sûreté japonaise avant Fukushima... C'est quelque chose qui peut nous paraître assez étonnant, mais c'est que globalement, le référentiel de sûreté, quand on est exploitant jusqu'à cette époque-là, le référentiel de sûreté qu'on est tenu de respecter, c'est celui de l'origine de la fabrication de la centrale. C'est-à-dire que si la centrale elle est conforme à ses spécifications de 74, puisque là c'est 71-74, eh bien... On peut vous dire, un peu moi, quand j'ai une 403 Peugeot de 1960, quand je vais passer le contrôle technique, je n'ai pas de ceinture de sécurité dans cette voiture, mais on me donne mon contrôle technique parce qu'à l'époque, ça n'était pas obligatoire. Donc, moi, je peux dire, je respecte le standard de la production de ma voiture. Là, c'était à peu près la même chose, à peu de choses près. C'est-à-dire que, notamment, pour le séisme, on disait, l'autorité recommandait de réviser un petit peu tout ça, mais ne pouvait l'imposer puisque la centrale était conforme à ses specs de départ. Alors, ils ont fait évoluer ça depuis. Nous, on est sur des schémas, comme vous savez bien, de réévaluation de sûreté tous les 10 ans, dans lequel le référentiel d'origine, c'est pas avec ça que l'exploitant va se défendre. On va lui dire, non, maintenant, c'est ça. Et puis voilà, quoi. Donc, il faut que tu te débrouilles pour le respecter. Autre, oui.
Au niveau de cette décontamination et de reprise en main du site, c'est les Japonais qui travaillent, mais est-ce qu'il y a d'autres équipes internationales qui bossent avec eux?
Alors, il y a effectivement un consortium. J'ai vu, il y a sur la réflexion autour de l'instrumentation et du corium. Là, effectivement, il y a une équipe, il y a une collaboration internationale pour essayer de voir comment traiter la question. Celle-là, je l'ai identifiée. Sur le reste, à part bien entendu qu'ils rendent compte dans différentes instances que l'épidémiologie se fait avec l'OMS, etc. Ils travaillent beaucoup avec leur énergie et leur détermination et leur savoir-faire japonais. J'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup d'autres gens qui mettent les pieds. Ils ont le TEPCO lui-même, l'autorité de sûreté, des sous-traitants nombreux. Je ne crois pas qu'il y ait de collaboration autre. Je peux me tromper, mais je peux le vérifier. Mais ils sont en train de prendre ça en main eux-mêmes avec énormément d'énergie et de savoir-faire quand même. Ils se débrouillent remarquablement bien de ce côté-là pour faire avancer les choses. Avec une gestion de la dosimétrie, avec... donc c'est quand même assez... la vitesse à laquelle ils vont est assez remarquable par rapport à ce qu'on sait que quand on voit la situation il y a 7 ans.
Oui, je vais poser une question que je n'ai pas traitée du tout. Je ne sais pas si vous allez pouvoir répondre. C'est finalement, quel est le coût économique de cette catastrophe?
Alors, oui,
j'ai... Peut-être lié à la transition énergétique allemande, pour voir un peu...
Ça serait... Alors, on a un coût, il y a une planche où il y a un coût, mais c'est un coût qui n'est pas celui que vous... C'est pas celui que vous évoquez, c'est le coût finalement technique des travaux, de même que je pense que sur les planches à la fois, on va retrouver ça par ici, je remonte encore un peu. Ça, c'est le tsunami, 236 milliards d'euros en 6 ans, mais ça, c'est les dépenses pour reconstruire, etc. Et vous voyez qu'on est à 193 milliards, mais... Ce n'est pas le coût économique, effectivement, parce que il doit être supérieur, puisque c'est ça, plus effectivement la baisse de... Les Japonais ont dû quand même faire des réductions de consommation électrique assez draconiennes les premières années et donc le coût économique, effectivement, de la catastrophe, j'ai pas exploré ce volet-là, effectivement. Il doit être, comme toujours, sur ces chiffres-là, un peu discutable, mais il doit bien y avoir une idée sur cette affaire-là. Est-ce que c'est un coût... Le meilleur coût, c'est celui qu'on évite, c'est-à-dire quand on voit que des précautions simples auraient déjà énormément limité les dégâts. Hein, le simple fait, je me souviens de Bernard Bigot, qui était notre administrateur général de l'époque, qui s'était rendu sur place, et qui disait, mais vraiment... Les conduites de fioul qui vont durer. Le réservoir de fioul n'a rien eu, le groupe électrogène non plus, en gros, mais la conduite qui alimente entre les deux était circulée, je dirais, sur le sol du quai, et elle a été. Donc on a perdu les alimentations pour des raisons qui étaient assez faciles, a priori, c'est toujours facile de refaire l'histoire, hein, mais avec le. Avec quelques précautions de conception et d'installation avant.
Ça, c'est pas tout à fait comparable à l'énergie verte en Allemagne, mais c'est pas si loin quand même.
En termes de coût, vous voulez dire,
en
par rapport
de
à...
coût, oui. En termes de coût,
je sais pas si on... Alors, il faudrait, oui, ce serait intéressant de chiffrer pas simplement le coût de la mise en place des nouveaux, enfin des éoliennes et du solaire et de la gazéification d'Allemagne, mais le coût de la sortie du nucléaire aussi, et le coût économique pour le ménage. Enfin, tout ça, c'est un débat dans lequel j'en arrive à ce même genre de chiffres. Donc, ce qu'il y a de sûr, c'est qu'une catastrophe de ce genre doit être évitée, ne serait-ce que pour des raisons de bonne gestion, puisqu'en fait, elle n'a pas vraiment de victimes, mais par contre, en termes économiques...
Et puis, les surfaces stériles en Allemagne, avec l'extraction de...
Oui,
c'est peut-être aussi comparable.
Comparable, absolument.
Ah, il y a plein de choses comme ça qu'il faudrait comparer, même.
Oui, absolument. Les surfaces immobilisées, là, les Japonais mettent un effort très fort pour reconquérir les zones, à part des zones sans intérêt technique, parce que c'est des zones de collines à forte pente dans lesquelles il n'y avait pas d'activité, il n'y en aurait pas après, mais sinon ils font tout le nécessaire pour... Et avec des gros travaux de grattage, etc., ils arrivent par diminuer, c'est pas très spectaculaire, par 2 ou 3 le niveau d'irradiation... à 1 mètre, parce que le césium a commencé à descendre un peu, donc soit on enlève tout, mais on fait des volumes énormes, mais par contre ils enlèvent les points chauds, enfin ils arrivent à gratter, quoi. Ça, c'est le... Mais je pense que l'option de dire le mieux est que ça n'arrive pas est encore la meilleure. Maintenant, il faut voir, il faut toujours... Moi, je pense que la comparaison la plus importante, c'est celle par rapport au tsunami et à ses 16 500 victimes, qui sont malheureusement inéluctables.
Comme vous le savez, comme vous l'avez entendu, c'est quand même l'origine du tsunami, c'est d'où il vient.
Absolument. C'est quand même les trois cœurs qui ont provoqué ce fameux tsunami. Ça, c'était...
Parce que je l'ai entendu, c'est à prendre ça aussi.
Oui, donc on devait écouter. C'était sidérant, quoi, comme effectivement. Et c'était pas de la désinformation, c'était juste de l'ignorance complète du sujet, quoi. Ça touche. Ah ben c'est grave, c'est grave, bien sûr. La bêtise est dangereuse, est dangereuse. La bêtise est dangereuse. Je suis d'accord avec vous là-dessus. Tout à fait. Ça, c'est là. Bien, écoutez, merci de votre attention. Non, c'est moi. chez moi.
Ça sera disponible sur le site.
Ah bah bien sûr, ça sera disponible sur le site. Bah bien sûr.
Tout à fait. Je vais faire le nécessaire. Je vous fais le la.
Ah bah bien sûr.
Hop là. Ce que je ferais peut-être juste, c'est que je nettoierai.
Oui, oui,
vous envoyer une version. Oui, une parce version. Que